Il y a donc, Shalom Bracha, une période qu'on appelle Ben Hametzarim, qui est une période intermédiaire entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Cette période est appelée du nom de Ben Hametzarim, ce qui veut dire entre les dans le lieu étroit, ou posément entre les sentiers, expression tirée du rouleau d'Echa, les lamentations de Jérémie. Et elle commence donc par le souvenir d'événements douloureux au début, ceux du 17 Tammuz, et ça finit par le souvenir, l'évocation d'autres événements douloureux, le 9 du mois de Av. Jusque là, vous suivez. La Mishnah, dans le traité de Ta'anit, nous dit la chose suivante. Chamisha devarim ero et avotenu b'shiva asar betamuz v'chamisha betisha be'av. Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 du mois de Tammuz, et cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 9 du mois de Av. Oui. Dans Maseret Ta'anit, dans le quatrième chapitre, il dit là-bas, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 15 Tammuz et cinq le 9 du mois d'Av. Et après, la Mishnah continue en nous donnant la liste des événements. Et si vous comptez, il y en a combien ? 10, 5 et 5. Ce qui veut donc dire que la première phrase est en trop. Étant donné que nous savons tous compter jusqu'à 10. Quoi ?
Oui.
Donc, ce n'était pas nécessaire de nous dire qu'il s'est passé 5 choses et 5 choses, puisque après, il y a une liste et qu'on sait compter. Vous avez compris le problème ? Oui, vas-y.
Il y a plusieurs commissaires comme ça, à chaque fois, on va lui donner le nombre avant.
Oui, bien sûr. Et à chaque fois, la question se pose : à quoi ça sert de donner une liste, de donner un chiffre, puisque nous savons compter ? Par exemple, pour les 39 travaux interdits le Shabbat, la Mishnah dit il y a 39 travaux qui sont interdits et voici la liste. À nouveau, la question se pose, pourquoi donner un chiffre si la liste est présente, n'est-ce pas ? Oui, d'accord. Mais là-bas, ce n'est pas en trop, au contraire. Donc, si la Mishnah nous dit qu'il s'est passé 5 choses et 5 choses, vous qui êtes très fort en mathématiques, vous savez que 5 et 5, ça fait 10. C'est donc que la Mishnah veut que nous fassions attention aux chiffres, indépendamment du contenu de la liste. Le contenu de la liste est important, mais à part ça, le chiffre 10 est important.
En plus, c'est bizarre parce qu'il s'est passé plein d'autres choses le 17 Tammuz.
Oui, par exemple, l'anniversaire de tous ceux qui sont nés le 17 Tammuz. Ça s'est passé le 17 Tammuz. Ce qui fait quand même une personne sur 365. Oui, quand tu prends vraiment 1000 personnes, il y en aura au moins 3 qui seront nés le 17 Tammuz, par exemple. Oui. Ouais. Je ne sais pas si le 17 Tammuz, d'ailleurs. Et donc, la question donc se pose, pourquoi dire ça ? C'est donc que le chiffre 10 est important. Et le chiffre 10 représente toujours quelque chose de complet. Par exemple, dans la Mishnah, dans le traité d'Avot, au début du 5e chapitre, on nous dit que le monde a été créé par 10 paroles, Asara Ma'amarot, et qu'il y a 10 générations d'Adam jusqu'à Noar, et 10 de Noar jusqu'à Adam, qu'il y a 10 épreuves qu'a traversé Abraham Avinu, qu'il y a eu 10 plaies en Égypte, 10 miracles en Égypte, 10 miracles sur la mer Rouge, qu'il y a eu 10 miracles dans le temple de Jérusalem, et que 10 choses ont été créées à l'entrée du Shabbat. Donc, si la Mishnah dit le chiffre 10, c'est pour nous dire que quelque chose de complet, d'entier, de parfait, se compte avec le chiffre 10. Ce qui veut nous dire que la série des malheurs qui arrivent à notre peuple, cela aussi a une logique intérieure. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a une logique intérieure ? C'est parce que quand on a des malheurs, surtout des malheurs à l'échelle nationale, Alors on peut se demander, il y a ici deux problèmes. D'une part, la souffrance que le malheur inflige, mais il y a également un autre problème. Peut-être que Dieu nous a abandonnés. C'est la question que se pose Iov, grand spécialiste de la souffrance dans le Tanakh. Il souffre des malheurs qui lui arrivent, mais il a un autre problème, il ne sait pas s'il n'a pas été, peut-être, abandonné par Dieu. Et à la fin de son discours, plein de toute sa diatribe, Dieu se révèle à Iov, et Iov est tout content. Il dit « Ah, j'ai compris ». Qu'est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris le sens de ses malheurs, parce que Dieu lui explique rien, mais il comprend qu'il n'est pas abandonné. Et là, il y a également ce que nous dit la Mishnah, elle nous donne un clin d'œil. Elle nous dit, il faut savoir qu'il se passe des tas de choses terribles, mais c'est dans le chiffre 10, donc il y a un sens. Tu voulais dire quelque chose? Parle.
Deux questions.
Oui.
Sur la dernière chose que vous avez dit, est-ce que vous pouvez me répéter? Nous, on a dit malheur.
Oui, on a eu 10 événements. Ces 10 événements en question, qui sont le 17 Tammuz et le 9 Av, et le fait que ce soit au chiffre de 10, le nombre de 10, ça veut dire que ça a un sens, qu'il y a une logique interne dans le malheur.
Pourquoi?
On va le voir, vas-y.
Je crois qu'on va avoir directement 10 et après les avancées. 10 entre le 17 Tammuz et le 9 Av.
Ah, pourquoi ne pas dire le chiffre 10? D'accord, pourquoi dire 5 et 5?
Voilà.
Ça, c'est la deuxième question. Elle dit 5 et 5. Chamisha dvarimero est avoté, nous bishiva sar betamuz, ve chamisha betisha beav. Elle aurait pu dire, il s'est passé 5 choses, lui c'est tamuz, donner la liste des 5, et après dire 5 choses à tisha beav, et donner la liste des 5. Or, c'est pas ça que fait la Mishnah. Elle dit 5 et 5, et après elle dit la liste. C'est donc qu'elle veut que tu fasses l'addition, qui est 5 plus 5, ce qui fait, attendez, je me concentre. 10. Voilà. Oui, 5 et 5, ça fait 55. Tu me troubles avec ta réponse. Je pense que c'est quand même 10. Je ne sais pas trop bien comment t'expliquer ça, mais je crois que c'est quand même 10. Oui. Quoi?
Moi, je le vois comme plutôt élevé. 5, 5. Tu vois qu'il y a deux fois le chiffre 5.
Oui.
C'est aussi pour mettre un vav dans le chiffre 5.
Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre un vav. On aurait pu nous dire, 5 choses se sont passées le 17 Tammuz, 5 choses se sont passées à Tisha B'Av. Mais ils nous disent, et 5 choses, ça veut donc dire qu'il faut faire 5 et 5. Ce qui veut dire plus, ce qui veut dire 10. Malgré toutes les tentatives de dire autre chose. Continuons. Donc, il y a... Oui. C'est ça la question. La question se pose. Et je crois que nous l'avons déjà posée. Et l'éventualité d'une réponse serait dans la mesure où on me laisserait répondre, par exemple. D'accord? C'est une possibilité comme une autre. Je sais qu'elle n'est pas la meilleure, mais enfin, disons, ça vaut quand même ce que ça vaut. La réponse, c'est que c'est 10, mais c'est coupé en deux. C'est-à-dire, il y a une harmonie, mais elle est secrète. Il faut y réfléchir, il faut faire l'addition. Est-ce que vous connaissez un autre phénomène dans le monde? Nous avons 5 et 5. Les doigts de la main, d'accord? Comme il fallait y penser. C'est-à-dire que, en fait, j'ai 10 doigts, mais les 10 sont séparés en 2. Il y a 5 et 5. Je mets ensemble, j'ai 10, poignée de main. D'accord? Yad et Yad, ça fait en hébreu Yadid, l'ami.
C'est la métaphore qu'on fait que le 10, c'est l'union.
Oui, c'est l'union, mais comme c'est des malheurs, c'est séparé. 5 et 5. D'accord? C'est-à-dire, il y a un ordre au désordre, mais cet ordre est caché. Comme disait Rabbi Nachman, Kol Ha'inyan, toute l'entreprise, c'est de ramener le désordre au sein de l'ordre. La Shiv est à Iseder, Liot Keseder. Ce qui veut dire que, en fait, c'est des événements qui nous font jeûner, mais ces événements ont un sens. Quel est le sens? Quelque chose se transforme en nous à travers les souffrances. Maintenant, je voudrais, avec votre autorisation, poser une question toute simple à propos des 5 événements du 17 Tammuz. Est-ce que ce sont des événements malheureux? Voyons la liste. Commençons par le premier de la liste. Qu'est-ce que c'est le premier? Hein? Non, justement pas. Les tables se sont brisées. Nishtabru aluchot. Or, le fait que les tables ont été brisées, c'est un événement heureux. Puisque Dieu dit à Moshe, Asher Shibarta, que tu as brisé, Rachid dit, Yishar Kochacha She Shibarta. Tu es félicité d'avoir brisé. Donc, le fait d'avoir brisé l'étape de la loi, c'est un événement sauveur. Donc, il n'y a pas de raison de jeûner. Mais vous allez me dire, oui, mais il y avait le veau d'or. Dans ce cas-là, on aurait dû dire que le premier des événements du 17 Tammuz, c'est le veau d'or. Mais au lieu de nous parler de la maladie, on nous parle de la guérison. Oui. Disons qu'on a beaucoup gagné à ce que ce soit brisé. On a gagné, grâce à cela, les deuxièmes tables. On n'aurait pas eu sans ça. Or, les deuxièmes tables sont le fondement de l'alliance sur la loi orale. Torah Shebe Al Peh. Les premières tables, elles représentent une Torah inaccessible. C'est une Torah entièrement divine. C'est des tables qui ont été faites par Dieu lui-même. Et donc, on ne peut pas y toucher. Il nous a amené pour qu'elles soient brisées. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle un idéal et une réalité. Il fallait donc qu'il y ait un veau d'or pour qu'elle soit brisée. Donc il faut remercier les enfants d'Israël d'avoir fait le veau d'or. Mais, quoi qu'il en soit, on voit donc que dans le début de la liste, on nous donne un événement heureux. Pourquoi le faire? Eh bien pour nous dire que au sein des malheurs se cache un bien. C'est vrai que quand on voit les tables se briser, c'est assez effrayant, c'est traumatisant. Mais en fait, il y a quelque chose de très bien qui se passe à travers ça. C'est quoi le deuxième événement? Hein? Ukvea Haïr, c'est quoi? Ufkea Haïr? La muraille a été éventrée. Ufkea Haïr. Ça, c'est le troisième événement. Le deuxième, s'il vous plaît. Boutal Atamid. C'est-à-dire que le sacrifice perpétuel a été interrompu. Troisième événement. Hein? Interrompu. Boutal Atamid a été annulé. C'est-à-dire que on présentait tous les jours deux agneaux sur l'autel, un le matin et un l'après-midi. Et lors du siège de Jérusalem, il y a un moment, il n'y avait plus d'agneaux. Non, c'est mal. Non, c'est mal. Mais comme tout a son origine dans le premier événement, donc on comprend que dans tous ces événements se cache un bien. Le troisième événement, c'est quoi? Ofkeir, ce qui veut dire la muraille de la ville a été éventrée. Le quatrième, Apostamos a brûlé la Torah. Et le cinquième, une statue a été érigé dans le Hechal, dans le sanctuaire. Bon, essayons de comprendre un peu ce que ça veut dire. D'abord, vous voyez qu'il y a ici une chute. Il y a comme une faille qui va en s'étendant. Où se trouvent les tables de la loi? Au Sinaï, ils sont là-bas? Hein? Dans le Aaron HaKodesh, dans le Aaron HaBrit. Où est-ce qu'il est, le Aaron HaBrit? Hein? Dans le Echal? Non, pas du tout. Dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le lieu le plus fondamental. C'est le centre de tout. Or, dans ce centre de tout, il y a une brisure. Il y a une faille. L'origine des crises se trouve dans le lieu le plus saint. Ce qui veut dire que la crise n'est pas extérieure. Ça fait partie de l'ordre du monde. Eh bien, c'est que les tables, qui sont le centre de tout, peuvent se briser. D'accord? Et puis après, il y a l'abolition du tamid. Le tamid, le sacrifice spirituel, où est-ce qu'il se faisait? Dans le Echal. Non, pas dans le Echal, il se faisait dans la Hazara, dans la cour. C'est le parvis, on dit en français. Le parvis du temple, il est en dehors du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est comme une onde qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et le troisième événement, c'était quoi? La muraille. Où est-ce qu'elle est, la muraille? À l'extérieur du temple. Donc, on voit que ça va de l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la ville de Jérusalem? Bien, Eretz Israël, non? D'accord? Hein? Il n'y a que le désert en dehors de Jérusalem? Il y a aussi Jérusalem, il y a aussi la Galilée, il y a un peu de tout, non? D'accord? C'est-à-dire, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a la cour du Temple, il y a Jérusalem et il y a Eretz Israël. Le quatrième événement, donc, c'est l'étendue de cette faille en dehors de Jérusalem, dans tout Eretz Israël. C'est quoi le quatrième événement? Ah, que ça a à voir. D'abord, c'est quoi cet événement de Apostamos qui a brûlé la Torah? Est-ce que c'est si grave que ça? C'est vrai que c'est pas bien de brûler un Sefer Torah, je suis tout à fait d'accord que c'est pas bien. Mais de là à en faire la raison d'un jeûne, pour tout Israël, pour toutes les générations, il y a quelque chose qui se cache là-dedans. D'abord, bien sûr, souvent il y a des Sefer Torah, malheureusement, qui ont été brûlés. D'ailleurs, il n'est même pas dit qu'Apostamos a brûlé un Sefer Torah. C'est qu'il a brûlé la Torah. C'est pas très clair. D'abord, c'est quoi Apostamos? Il y a en latin un nom qu'on donnait souvent chez les soldats romains, postumus. Quelqu'un vous a donné un cours sur ce que je dis là maintenant? J'ai l'impression. Oui, postumus. Postumus, ça veut dire posthume. C'est-à-dire un enfant qui est né après la mort de son père. Et c'est un nom qui était courant chez les soldats romains. À mon sens, l'événement dont il est question, c'est un événement raconté par Flavius Joseph. Flavius Joseph, Yosef ben Matityahu, raconte la destruction du temple. Il raconte également comment a commencé la révolte qui, après 4 ans, a amené la destruction du Beth Amikdash. Il raconte comment ça a commencé. Il dit qu'il y avait une patrouille romaine qui s'est fait attaquer par deux Gaulois. Non, qui s'est fait attaquer dans la région de Beth-Horon. Et les Romains ont entrepris des fouilles dans les maisons alentour pour trouver les coupables. Pendant les fouilles, un soldat romain, c'est ce que raconte Flavius Joseph, trouve un Sefer Torah dans une des maisons et le brûle. Ça a entraîné une tension incroyable et c'est comme ça qu'a commencé la révolte. Donc c'était le déclenchement du Khurban, en fait, qui a commencé à ce moment-là. Ce qui, donc, est la faille qui arrive à tout Eretz Israël. Petite remarque intéressante de Flavius Joseph. Il dit que quand ce Sefer Torah a été brûlé, c'était très dur pour les Juifs. Ils en étaient outrés. Comme si on brûlait... Dites quoi? Non? Comme si on brûlait une partie de leur territoire. C'est-à-dire, pour te expliquer combien c'est grave de brûler un Sefer Torah, on dit c'est comme si tu donnais Gouche Katif. D'accord? C'est à peu près ça que ça veut dire. C'est très grave. C'est comme si on donnait une partie d'Eretz Israël. Et donc, en fait, ça veut donc dire que les Saraf Apostamos la Torah, quand Apostamos brûle la Torah, c'est comme si l'onde radioactive, si vous voulez, sortait du Kodesh HaKodashim pour passer par Lazare, pour passer par la ville, pour passer par tout Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a en plus d'Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël? Il y a le monde entier. Quel est le cinquième événement du 17 Tammuz? Une statue dans le Echal. Ça nous ramène en arrière. C'est donc que le Echal, ce n'est pas le Echal. C'est quoi le Echal? Le monde entier. Puisqu'il est dit dans le livre de Habakkuk, Vashem be'echal kocho, quand Dieu est dans son sanctuaire, Has mipanav kol haaretz, toute la terre se tait devant lui. C'est donc le Echal, si vous voulez, c'est le sanctuaire, c'est le cosmos tout entier. Et on a mis une statue dans le Héchal. C'est quoi une statue dans le Héchal? Une statue, en général, si quelqu'un veut pratiquer l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il abandonne le culte de Dieu et il va chez les idolâtres. Il dit, Avodat Hashem, la Torah, c'est difficile. Il paraît que c'est beaucoup plus sympa chez le Baal. Alors, il abandonne la maison de Dieu, il va chez le Baal. D'accord? Ça se tient? Mais mettre une statue dans le temple, enfin dans le sanctuaire, ça veut dire pratiquer l'idolâtrie au nom du judaïsme. Ce qui est beaucoup plus grave. Comment est-ce possible? Nous avons un exemple très clair de cela. Le christianisme. Le christianisme pratique un culte idolâtre au nom du judaïsme, au nom de la Torah, n'est-ce pas? Vehemid tselem ba'echal, c'est-à-dire, s'il y a une faille quelque part, ça en arrive jusqu'à ce qu'on mette une statue dans le monde. Oui? Comme toute chose, tout a sa source dans le bien. D'accord? Mais ça veut dire que c'est une faille. D'accord? Maintenant, quel est l'événement qui a rapport avec la fondation du christianisme qui s'est passé le 17 Tammuz? Je n'en ai aucune idée. Mais il faut entreprendre des recherches. Nous trouverons certainement un événement lié à la fondation du christianisme qui s'est passé le 17 Tammuz, sinon ça ne passe pas. Mon cours serait disharmonieux. Donc, c'est ce qu'il fallait. Donc, ça prouve qu'il y a eu un événement lié au 17 Tammuz qui s'est passé le 17 Tammuz, qui est lié à la fondation du christianisme. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on lance la flèche et après on dessine la cible. D'accord? Maintenant, passons à nouveau au troisième événement. Le troisième événement, on avait dit, c'était quoi? Ofkeaïr. C'est-à-dire que la muraille de la ville a été éventrée. Ça s'est passé quand? Le 17 Tammuz. Si vous lisez dans le livre de Yirmiyahu, en français Jérémie, vous verrez qu'il est écrit en toutes lettres que la muraille a été éventrée le 9 Tammuz, pas le 17. D'abord, nous en sommes à poser la question. Donc, le livre de Jérémie, la Bible, quoi, nous dit que ça s'est passé le 9 Tammuz. Et dans la Mishnah, il dit que ça s'est passé le 17. Il y a deux réponses qui ont été données dans la Gemara à ce problème. La première réponse est donnée dans le Talmud Bavli, Talmud de Babylone. Talmud de Babylone nous dit, c'est pas difficile, ça s'est passé le 9 Tammuz lors de la chute du premier temple et le 17 lors de la chute du deuxième. Tout bête, hein? Or, comme nous sommes proches des événements du deuxième temple, donc on jeûne le 17 Tammuz. C'est clair? Bon. Mais le Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, n'est pas d'accord. Il dit quelque chose de très osé. Alors, si vous avez beaucoup de sensibilité, que ça risque de vous ébranler, je vous demande donc de sortir, puisque personne n'est sorti, donc je vais continuer. Le Talmud de Jérusalem dit que lors de la destruction du premier temple, ça s'est quand même passé le 17 Tammuz. Et le fait qu'il est écrit dans le Tanakh que ça s'est passé le 9, c'est parce que le prophète s'est trompé. Bon, le prophète s'est trompé. Il est gonflé, hein, le Talmud. Oui?
La destruction du temple, c'est un décret, quelque chose de...
Oui, alors? J'ai pas compris ce que tu veux dire par là.
Comme c'est des
choses négatives. Oui. Ah, très intéressant. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est du négatif, alors il y a du bilboule, il y a de la confusion, et donc on peut se tromper. Mais attention, si on réfléchit bien, le prophète, il n'écrit pas ses idées à lui. Ça lui est dicté par en haut. Ça veut donc dire que c'est la prophétie qui s'est trompée. Mais la prophétie, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est le bon Dieu qui s'est trompé. En tout cas, c'est ça que ça vous semble dire. Et le Talmud dit, compare ça, il fait une parabole. Il dit, c'est comme un roi qui était en train d'écrire ses comptes. Et quand il était en train d'écrire, on lui a annoncé la mort de son fils. Il s'est trompé en écrivant. Hein ? Il s'est trompé. Mais d'abord, j'aime comprendre. D'abord, la parabole est très belle, mais comment est-ce que ça voudrait donc dire que Dieu a voulu écrire 17 et que ça lui est sorti 9 ? Comment est-ce que quand on écrit 17 et qu'on se trompe, ça devient 9 ? Vous savez comment on écrit 17 en hébreu ? Yud-Zayin. Si vous avez de l'encre et que vous tremblez un peu, et qu'il y a une goutte du Yud qui coule et qui rejoint la base du Zayin, ça devient quoi ? Un tête. D'accord ? C'était Yud-Zayin, et puis ça s'est collé, c'est devenu tête. C'est une première possibilité. Autre possibilité, pour écrire 17 en hébreu, on écrit parfois Tov. Tov Betamuz. Tov, c'est en Gematria, 17. Mais le bien qu'il doit y avoir en Tamuz est caché par les événements. Donc il n'a écrit que l'initiale de Tov. C'est quoi l'initiale de Tov ? Tête. Donc au lieu d'écrire 17, il a écrit 9. Mais la Gemara, dans le traité de Berachot, dit que lorsqu'on a en rêve l'apparition d'un tête, quelqu'un qui voit un tête en rêve, Yitzpe Letov, il doit s'attendre au bien. Pourquoi ? Parce que tête, c'est la première lettre du mot Tov. N'importe quoi. C'est pas aussi la première lettre du mot Tamé, qui veut dire impur. Ou Timtum, qui veut dire bêtise. Simplement, la première fois qu'apparaît la lettre tête dans la Torah, c'est pour dire Vayar Elohim et Taor, Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne, c'est le premier tête de la Torah, donc ça signifie le bien. Ça veut dire que tête, c'est le commencement, c'est l'origine, la racine du bien. C'est-à-dire que dans le 17 Tammuz, il nous reste la racine. Dans le concret, on ne s'en rend pas compte. On voit qu'il y a des malheurs. Mais nous savons que quelque chose de bien se cache là-bas. Oui ? Ah, très bien. J'attendais la question. Mais comment est-ce que la prophétie a pu se tromper ? Est-ce que on peut dire des choses... Est-ce qu'on peut dire des défauts de Dieu ? Non. Est-ce qu'on peut dire des qualités ? Non plus. C'est-à-dire, en fait, ce que dit le Rambam, c'est que dans les attributs divins, on ne peut rien dire, ni en bien, ni en mal. Pourtant, nous autorisons de dire le bien. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est important. D'accord ? C'est ce qui nous permet de nous attacher au midot d'en haut. Mahu rachum, afata rachum. De même que lui est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. Donc, ça nous permet de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Hein ? Mais c'est pas lui, mais c'est comme ça qu'il se manifeste. Mais il y a parfois des situations où nous sommes dans la détresse. Et dans ce cas-là, quand je suis en détresse, je suis en confusion, en bilboule. Je ne suis pas capable de m'attacher au midot d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait le bon Dieu pour me sauver de ça ? Il se met lui aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que lui aussi va créer la confusion pour que dans ma confusion, je lui ressemble. D'accord ? Oui, mais au moins, ça me rattache à lui. C'est comme Yov. Oui, c'est comme Yov. Quand Yov est dans ses malheurs, il se dit, oui, mais en haut, il n'y a que de la joie. Alors, s'il n'y a que de la joie, non, chez moi aussi, il y a de la tristesse. Alors, cette tristesse se lie à sa tristesse à lui. Donc, ça permet d'être en rapport. Donc, ça veut dire que quand moi, je me trompe, à cause des malheurs, quand est-ce qu'on se trompe ? Quand on est dans la tristesse. C'est-à-dire que moi aussi, je suis comme lui, je lui ressemble. D'accord ? Exactement. Voilà. Donc c'est ça que fait la névoie. C'est un geste de bonne volonté de la part de la prophétie de se tromper.
Mais non, la question, c'est comment il a pu recevoir la prophétie en étant malheureux ?
Parce qu'il a commencé dans la joie.
Et dans la prophétie, il est devenu malheureux ?
Ouais. Donc, mais enfin, c'est quelque chose de très profond qui se cache dans le Yerushalmi. Vous comprenez que le Yerushalmi dit des choses que le Bavli ne peut pas dire. Oui, oui, c'est le Yerushalmi. Parce que le Bavli, il est pédagogique. Il ne va pas te dire que Dieu se trompe, ça ne se fait pas. C'est incompréhensible, inintelligible pour un juif de la Gola. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas, vous avez remarqué, toutes les cinq choses qui se passent le 17 Tammuz sont toutes des commencements. Et les cinq choses qui se passent à Tisha B'Av sont toutes des aboutissements. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose commençait à être détruit et finit d'être détruit à Tisha B'Av. Quels sont les cinq événements qui se sont passés à Tisha B'Av ? Soit dit en passant, depuis, il y en a eu encore des tas. Par exemple, l'exil, l'expulsion des Juifs d'Espagne, la Tisha B'Av. La Première Guerre mondiale commençait à Tisha B'Av. Et la destruction du Gouche Katif, Tisha B'Av. Donc on voit qu'il y a une sorte de règle qui est rassurante. Quand on a des tuiles, ça se passe toujours à la même date. C'est bien, ça veut dire qu'il y a une Ashgaha, il y a une providence. Il vaut mieux encore ne pas avoir de tuiles du tout. Mais il y en a. Exactement. Alors passons donc maintenant. Bien sûr. Est-ce que tu crois en l'avenue du Mashiach ? Hein ? D'ailleurs, je vais dire plus que ça. Manitou disait, comment est-ce que nous savons qu'il y a le Olam Abba ? Tout simplement, c'est écrit au début de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim. Si c'est Dieu qui a créé le monde, il ne va quand même pas le laisser dans cet état. Donc, tu sais que c'est temporaire. Donc, il y a un Olam Abba, tout simplement. Passons donc à Tisha B'Av. Tisha B'Av, quels sont les cinq événements ? Le premier, s'il vous plaît. Il a été décrété que nos ancêtres n'entreraient pas en Eretz Israël. C'est-à-dire, le malheur fondamental de Tisha B'Av, c'est ne pas entrer en Eretz Israël. Important à savoir, quand on jeûne à Tisha B'Av, on jeûne tout d'abord à cause de ça. Qu'est-ce que faisaient nos ancêtres pendant 40 ans après avoir pris ce décret ? Eh bien, chaque année, à Tisha B'Av, ils faisaient un jour de deuil. Ben, évidemment. C'est le jour où il y a eu le décret. C'est la raison du jeûne. Donc, chaque année, pendant 40 ans, nos ancêtres ont fait le deuil à Tisha B'Av. Quand ils sont entrés en Eretz Israël après 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce jour ? Ils en ont fait un jour de joie. Comme dit le prophète Zecharia, tous ces jeûnes, quand cesse la raison du jeûne, deviennent des jours de réjouissance. Et donc, à l'époque du premier temple, nos ancêtres, très certainement, faisaient un jour de réjouissance, le jour de Tisha B'Av. Le décret
de non-rentrée,
c'est
des
Oui. Si, il y a une source indirecte. Nous savons que le 15 du mois de Av, c'était un jour férié. Or, le 15 du mois de Av, c'est le septième jour à partir de Tisha B'Av. C'est donc qu'il faisait une fête de sept jours. Parce que de même que le deuil dure sept jours, donc la réjouissance dure sept jours. Donc le septième jour de la fête, qui était donc le sommet de la fête, c'était le 15 Av.
C'est le sommet ?
Oui, toujours. Surtout que ça va en grandissant, puisqu'on va vers la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est l'essentiel. D'accord ? Donc, il y a une source indirecte. Mais puis après, c'est devenu un jour de deuil lorsque le premier temple a été détruit. C'est donc ça, c'est le deuxième événement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le deuxième événement, c'est la destruction du premier temple. Troisième événement, s'il vous plaît. la destruction du deuxième temple. Quatrième événement, s'il vous plaît. La chute de Beitar. Beitar, c'est-à-dire l'échec total de la révolte de Bar Korba. Il y a une tentative messianique. Beitar. Beitar, oui, bien sûr. Oui. Certainement, c'est Beitar. Oui. Mais les francophones disent Beitar. Oui. Les francophones ne savent pas prononcer le het. Ils disent un ret. D'accord ? Et le cinquième événement ? La destruction ? Non, pas du tout. La ville a été labourée et semée de sel. Quand les Romains voulaient dire qu'un lieu ne serait jamais reconstruit, ils faisaient passer une charrue dans l'emplacement qu'ils ne voulaient pas reconstruire et ils semaient du sel. Bien que le sel ne pousse pas, donc cette ville ne sera pas reconstruite. Jérusalem. Venechrecha à Ir. La ville a été labourée. Symboliquement, ce n'était pas nécessaire de faire passer de tout labourer, mais ils ont fait un sillon, n'est-ce pas, pour signifier que cette ville ne sera jamais reconstruite. D'accord ? C'est ça qu'ils ont fait. Eh bien, cette histoire, c'est quand même assez surprenant. D'abord, ce sont des destructions totales, tout ça, n'est-ce pas ? On ne rentre pas en Eretz Israël, le premier et deuxième temple sont détruits, Beitar est détruite, la ville est labourée. Et ça fait donc cinq choses, n'est-ce pas ? Combien de choses sont interdites à Tisha B'Av ? Hein ?
De manger.
De manger. Des rapports, c'est la cinquième, oui.
Des chaussures,
oui. Soindre.
Se laver.
Se laver. Et boire. Soindre, c'est comme boire. Non, soin, c'est se mettre de l'huile. Non, 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 c'est apparenté à la boisson. Sira kishtia. Dans les cinq. Donc ça fait combien ?
C'est une catégorie en plus.
Cinq. D'accord ? Soindre est une sous-catégorie de la boisson. D'accord ? Donc il y a cinq interdictions le jour de Tisha B'Av. Hein ?
Manger, boire, chaussures,
toucher. Tu n'as pas fait dans l'ordre. Manger, boire, se laver, les chaussures et le rapport conjugal. D'accord ? Tout cela donc est interdit à Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça veut dire Tisha B'Av, le 9 du mois d'Av. Hein ? Pourquoi je dis comme ça ? C'est comme ça que ça se prononce en Afrique du Nord. Tisha B'Av. Les gens disaient Tisha B'Av. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Tisha B'Av. D'accord ? De même que à l'approche de Kippour, ils faisaient Tchofa. Tchofa. Tchofa, c'est-à-dire Teshuva. D'accord ? Il y a des trucs comme ça. C'est comme, par exemple, chez nos frères tunisiens, quand ils font la liste des 10 plaies le soir du Seder, ils disent « Simsimenu ». Simsimenu, ce qui veut dire « Hashem ishmirenu v'yatsilenu », que Dieu nous garde et nous sauve. D'accord ? Simsimenu, c'est devenu... Ouais. Et donc, c'est une contraction, ça s'appelle. Donc, à Tisha B'Av, nous avons 5 choses qui sont interdites. Combien d'événements malheureux sont passés à Tisha B'Av ? 10, 9 ou 5 ?
5.
5, 5, d'accord ? Donc s'il y a 5 choses interdites, c'est probablement en rapport avec les 5 événements. Voyons donc. Quand la première chose s'est passée, l'interdiction d'entrer en Eretz Israël, n'est-ce pas ? L'interdiction d'entrer en Eretz Israël, c'est donc l'interdiction de manger. Parce que pourquoi est-ce qu'on entre en Eretz Israël ? On le dit dans la bracha de cette espèce. On dit l'echol mipiria velisboa mituva, pour manger de son fruit et se rassasier de son bien. Donc ne pas entrer en Eretz Israël, c'est ne pas manger, c'est-à-dire ne pas sanctifier la nourriture, n'est-ce pas ? Maintenant, la destruction du premier temple, c'est arrêter de boire, parce que qu'est-ce qui était le phénomène le plus important à l'époque du premier temple ? La prophétie. La prophétie. Or, comment est-ce qu'on faisait pour devenir prophète? Le Midrash nous dit, les prophètes arrivaient au temple lors des réjouissances de Simchat Bet HaShoeva, des réjouissances qu'on faisait pour quand on versait l'eau sur l'autel, et c'est là qu'ils prophétisaient. On appelait ça Shoeva, la puisaterie, parce que c'est là qu'on puisait du Ruach HaKodesh. Quoi? Parce que c'est le jour de la joie. Or, la joie est l'élément essentiel pour devenir prophète. Donc, la destruction du premier temple, c'est cesser de boire, puisqu'il n'y a plus de prophète. De Bet HaShoeva. C'est les réjouissances qu'on faisait à Sukkot, lorsqu'on puisait l'eau qu'on amenait pour verser sur l'autel. C'était tous les jours de Sukkot. Les jours qui ne sont pas ni Shabbat ni Yom Tov. Et puis, il y a le deuxième temple. Le deuxième temple était sans présence de la Shekhina, il n'y avait pas le Ruach HaKodesh, mais il y avait la pureté. Il y avait une très grande attention portée à la pureté corporelle, à tel point même que la halakha, qui était en vigueur à l'époque du deuxième temple, est qu'on ne peut pas faire la prière ni étudier la Torah si on a une impureté corporelle. Donc quelqu'un qui était atteint d'une impureté corporelle, s'il voulait étudier ou faire la prière, devait d'abord se tremper dans le mikvé. Hein? Oui, ou bien stam keri, c'est-à-dire une perte séminale. D'accord? Quelqu'un avait une perte séminale, pour toute raison qu'il soit, eh bien, il devait se tremper dans le mikvé. Ça a été aboli, ce devoir, la Guémara dit, parce que la majorité du public n'en est plus capable. Et donc, une xéra qui ne peut pas être accomplie par tout le monde est abolie. Mais c'était comme ça à l'époque du Bayit Sheni. Donc, c'était se laver. Destruction du deuxième temple, nous cessons de nous purifier par l'eau, et donc c'est la troisième interdiction de Tchambab, qui est de ne pas se laver. Le quatrième événement, c'était la chute de Beitar, n'est-ce pas? La chute de Beitar était un avortement messianique. C'était une tentative d'amener le Mashiach, et ça n'a pas réussi. N'est-ce pas? À quoi ressemble un avorton? Vous avez déjà vu un avorton? Non? Hein? Ça ressemble à une sandale. C'est plat et ça a la forme d'une sandale. C'est écrit dans la Mishnah. Ipila sandal. Donc, à cause de cela, nous ne portons pas de sandales. À Tchabéav. Il y a eu d'ailleurs un autre événement qui s'est passé à la fin de la révolte, qui a, pour des tas de raisons, il y a eu une tuerie entre juifs par erreur. Et à cause de ça, on a décrété de ne pas porter le jour du Shabbat une sandale cloutée, sandale amsumar. Quels sont les détails de cet événement? C'est pas important pour l'instant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un rapport entre l'échec de la révolte de Bar Kokhba et être chaussé. Être chaussé, c'est habiller le pied. Le pied, le talon, c'est la fin du corps. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de l'histoire. La première génération ressemble à la tête, la dernière génération ressemble au talon. Ikveta dimshicha. Donc ça n'a pas marché, donc on ne met pas de chaussures ou de sandales à Tisha B'Av. Et quel était le cinquième événement? On a labouré la ville. C'est comme un adultère. Le labour, c'est comme la relation conjugale. C'est comme si on avait été labouré par d'autres. Et donc, l'interdiction de l'intimité conjugale à Tisha B'Av. Et donc, il y a un rapport entre les événements et les halakhot. D'accord? Ça ressemble. Parce que c'est comme tu sèmes et que c'est pour permettre de semer. Et donc de faire pousser après. Et donc, c'est ça les événements. Et donc, on voit qu'il y a une logique qui lie les événements catastrophiques de Tisha B'Av et les halachot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tomber 5 minutes avant.